Hello tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit monologue aujourd'hui sur le Lucho en rapport avec les messageries instantanées et plus précisément avec la communication asynchrone. Parce que on utilise la messagerie instantanée comme un support permettant d'avoir des discussions quasiment en direct, c'est ce qu'on cherche. D'où la logique de messagerie instantanée. Contrairement au mail où là, on sait qu'on envoie une lettre à quelqu'un et que la personne peut répondre, mais suivant ses disponibilités. Donc, il y a ce fonctionnement complètement asynchrone avec le mail. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la messagerie instantanée a aussi créé pas mal de biais dans nos usages. C'est-à-dire que, au départ, vu qu'on était habitué au mail, on savait que la personne pouvait répondre un peu quand elle avait envie, le principe des SMS. Au départ, on avait même un nombre SMS maximum par mois, ce qui fait que si une personne avait plus de SMS, du coup, elle pouvait tout simplement plus vous écrire un message. Et puis ensuite est arrivée la 3G, la 4G, les messageries ont évolué, et maintenant, on a des notifications et on peut se retrouver, malheureusement, à devoir quasiment être dans la réponse instantanée. Mais qui est induit aussi par ce biais de la messagerie instantanée. Le point que je voulais soulever aujourd'hui, c'est que justement, il y a des bonnes pratiques pour utiliser cette messagerie instantanée pour revenir sur des bonnes bases qui ne sont pas justement des bases d'urgence, des bases de stress, des bases d'avoir peur de rater des choses, mais renouer avec justement le principe de la communication asynchrone. Efficace, plus efficace souvent qu'avec des mails, parce qu'on reste vraiment avec les mails sur des paradigmes de lettres qu'on va envoyer. Maintenant, avec Gmail, par exemple, on peut programmer un envoi pour plus tard, donc on n'est même plus obligé d'envoyer au moment où on répond. Mais on est toujours dans un paradigme d'envoi, de réception, de classement dans des boîtes, tout ça. Avec des messageries instantanées bien faites, on va pouvoir vraiment rentrer dans une communication asynchrone efficace si on sort justement de ce premier biais qui est de se dire messagerie instantanée, il faut que je réponde tout de suite, sinon je vais faire attendre ou je veux qu'on me réponde tout de suite. Et dans ce cas-là, je vais mettre un coup de pression, un coup d'urgence. Et j'ai peur de rater des messages aussi parce qu'il y en a tellement que du coup, il va falloir que je trouve un moyen pour pouvoir m'y référer rapidement. Voilà. Donc, la communication asynchrone, si on reprend les bases, vraiment, c'est de se dire, si jamais j'ai des choses à partager à des personnes en termes d'informations par rapport à un projet, par rapport à des ressources, à des connaissances, quoi que ce soit, je vais pouvoir laisser un message et les personnes vont pouvoir venir d'elles-mêmes découvrir ce message. Si jamais ce message est vraiment adressé à quelqu'un en particulier, je vais pouvoir adresser cette personne, comme dans pas mal de messageries avec le petit arrobase, donc je vais pouvoir taguer cette personne pour pouvoir facilement l'adresser. Si ça adresse plus de monde, il y a même les petits arrobas, canaux par exemple ou channel dans des messageries comme Slack où on va pouvoir adresser tout le monde dans un même groupe de messagerie. Mais dans tous les cas, je viens poser un message et c'est les personnes qui vont choisir quand elles ont envie de venir dessus pour le trouver. Si jamais je suis vraiment dans une situation d'urgence absolue où j'ai besoin d'avoir une réponse tout de suite, alors, dans ce cas-là, je ne suis pas dans une logique de communication asynchrone. Je vais être dans une logique de communication synchrone. Et donc, c'est exactement le moment où je peux appeler la personne, faire un call avec elle et discuter directement avec elle. Ou sinon, si vous avez vraiment des bons usages de la messagerie instantanée, vous allez pouvoir booker un temps avec une personne pour discuter autour d'un projet pendant 1 heure, par exemple, quand vous êtes en train de travailler sur un chat, si jamais ce n'est pas possible de le faire en audio. Par contre, c'est quelque chose qui est arrêté dans le temps. C'est un événement synchrone, en fait, c'est un peu un rituel. On détermine un rituel et dans ce rituel, on s'assure que tout le monde va pouvoir avoir son attention au même niveau et au même moment pour qu'on puisse justement travailler synchrone et efficacement. Maintenant, je voulais juste rentrer un peu plus dans le détail en prenant comme exemple une messagerie que pas mal doivent connaître, qui est la messagerie Slack. Parce que c'est la messagerie, par exemple, qu'on utilise nous avec notre collectif, avec l'archipel, depuis un petit moment. Et c'est aussi une messagerie qui a induit pas mal de biais aussi, mais qui a induit pas mal de codes de fonctionnement qui ont été repris par d'autres messageries, qui ont été réajustés, réadaptés. Et du coup, ça a donné naissance à une ribambelle d'applications de messagerie asynchrone. Mais Slack, du coup, c'est peut-être le plus parlant pour pas mal de monde et ça reprend aussi pas mal d'exemples de bonnes pratiques à avoir. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, donc je suis dans un outil de communication asynchrone. Donc, je sais que les messages que je vais mettre, ce n'est pas des messages que les gens vont lire tout de suite. Si c'est vraiment des choses qui sont importantes, je vais pouvoir spécifier que c'est pour telle ou telle personne ou que c'est pour tout le monde avec le petit tag. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément faire à chaque fois. On va vraiment le faire en y pensant, en se disant, bah voilà, ça s'est adressé à telle personne. Alors, si c'est vraiment adressé que à cette personne, c'est là où vous allez pouvoir avoir les messages privés. Du coup, vous allez ouvrir un fil de discussion juste avec la personne ou juste avec les deux, trois personnes concernées. Et là, vous allez lui partager ce que vous avez à lui partager. Si par contre, vous partagez quelque chose qui est utile pour quelqu'un, une, deux ou trois personnes, pour un projet, pour un sujet, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir partager l'information, taguer ces personnes. Du coup, vous êtes sûr qu'elles vont avoir une notification, suivant comment elles ont paramétré leur notification. Et en même temps, les autres, si jamais ils sont curieux ou si jamais ils ont envie de suivre, vont pouvoir aussi suivre ce qui s'y passe. Là rentre en compte le fonctionnement asynchrone, c'est-à-dire que les personnes que vous allez notifier sont des personnes qui risquent de, du coup, venir voir le message plus tôt que les autres. Donc, eux, ils ont besoin de le voir, ils vont pouvoir réagir, parce que vous avez besoin d'avancer avec eux. Et puis, les autres, voilà, ça sera au petit bonheur la chance ou au petit bonheur le temps qui vient, et ils choisiront quand ils auront envie de venir voir ce message. Et vous ne vous attendez pas non plus à ce que les gens aient lu tous les messages qui ont été postés de partout, et vous ne vous attendez pas non plus à mettre des arrobas canal ou channel un peu de partout, donc notifier tout le monde pour être sûr que tout le monde lise. Sinon, on arrive dans les biais que je parlais juste avant, des biais un peu chaotiques qui ont été poussés un peu trop loin dans pas mal d'entreprises, qui est justement de se dire, bah voilà, vu que les gens ne lisent jamais les messages, bah du coup, je vais mettre des notifications à tout le monde tout le temps. Et au final, ça crée du bruit, tellement de bruit que du coup, les gens préfèrent tout couper et du coup, ne plus venir sur les messages. Qu'est-ce que ça crée derrière comme biais si jamais on ne fonctionne pas suffisamment avec les bonnes pratiques de cette communication asynchrone? Bah, ce qui va se passer en fait, c'est que les personnes vont plus utiliser ces supports-là et vont se dire, bah, pour pouvoir se passer de l'information, on n'a pas le choix que de revenir au mail, parce que de toute manière, tout le monde va avoir sa boîte mail. Donc du coup, on surcharge les boîtes mail de tout le monde. Et sinon, on va revenir à placer des calls tout le temps, des visios ou des coups de téléphone. Et là, on va commencer à remplir les calendriers de tout le monde, ce qui va commencer à surcharger vraiment les activités de chacun. Donc, si je reviens sur Slack, j'ai un message à communiquer à une personne, je lui fais un DM, un message direct, un message privé. J'ai un message à communiquer par rapport à un projet, eh bien, je vais pouvoir organiser correctement l'information dans l'outil Slack ou dans les autres outils en créant des canaux de sujets, des canaux de thèmes, des canaux de discussion. Par exemple, nous, du côté de l'archipel, on a un canal QC, on s'appelle l'archipel QC, qui est vraiment les discussions générales en rapport avec l'organisation interne et tout ce qui s'y passe. On a un canal projet avec un S. Et ensuite, on a des canaux qui sont des canaux ouverts à une communauté un peu plus large, où là, on va pouvoir partager sur aléatoire des tonnes de choses qui nous passent par la tête, des trucs un peu plus sensibles. On va pouvoir partager sur veille des éléments de notre veille. On va pouvoir partager sur général des discussions qui adressent vraiment tout le monde. Et ça va être en gros un canal, le canal général. C'est en général le canal de premier contact pour arriver à voir tout le monde s'exprimer les uns avec les autres, même ceux qui ne se connaissent peut-être pas. Voilà. Ensuite, quand on a réussi à bien organiser par canaux les différents sujets qu'on traite, les différentes communications qu'on va avoir, on va à chaque fois essayer de bien organiser la communication. Par exemple, si on a plusieurs projets dans un collectif ou dans une entreprise, on va avoir à chaque fois du nombre de projets. On va pouvoir du coup ouvrir une conversation en rapport avec un projet en spécifiant projet X. Et ensuite, on va commencer à mettre un petit message d'introduction pour expliquer ce qu'on va partager comme information ou ce qu'on va poser comme question par rapport à ce projet X. Et à ce moment-là, on a une autre fonction des messageries comme Slack qui est les fils de conversation ou les threads. Ce qui fait que du coup, en fait, sur le fil général du canal, donc sur le fil projet, on va avoir ce nouveau message qui arrive par rapport à projet X. Et ensuite, on va voir qu'il y a un fil de discussion qui a été ouvert à l'intérieur de ce message. Et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et là, on va voir toutes les informations que concerne cette information particulière. Donc, par exemple, si c'est un état d'avancement du projet, si c'est des feedbacks qui ont été partagés par un client ou quoi que ce soit, je ne sais pas. À ce moment-là, on va pouvoir aller trouver cette information à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de ce fil de discussion qu'on va pouvoir venir mettre les notifications pour les différentes personnes par différents messages de ce fil de discussion. C'est là où les autres vont pouvoir rebondir, c'est là où il va y avoir des échanges, mais qui vont toujours rester contextualisés à l'intérieur du sujet et du contexte du projet X du moment, et à l'intérieur du canal projet avec un S. Ce qui fait que les personnes qui sont notifiées vont directement accéder aux messages qu'ils vont comprendre, parce que du coup, ils sont dans le projet, ils sont notifiés, donc en fait, ils vont avoir l'information directe de ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et puis, les autres personnes qui ne sont pas dans ce projet, par exemple, vont pouvoir quand même voir qu'il se passe des choses dans le projet, vont pouvoir quand même rentrer dans ce fil de discussion projet X pour venir s'intéresser, si jamais ils ont l'envie, ils ont le besoin. Donc, quel est l'intérêt vraiment profond de ça? C'est que quand on travaille en collectif ou en entreprise, on a l'importance de pouvoir échanger ensemble à l'intérieur de ce qui se passe dans un projet pour faire évoluer le projet. C'est de la communication asynchrone qui est de la co-construction en fait du projet, donc vraiment la coopération sur le projet. Et puis après, la coopération est aussi à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir sentir, suivre ce qui se passe dans les projets des autres. Les différentes discussions qu'il peut y avoir, les réflexions, si par exemple il y a des questions qui sont posées un peu plus larges, s'il y a des rebonds sur des articles qui sont partagés ou sur des éléments de veille, on va pouvoir vraiment avoir cette double entrée d'information qui est de se dire j'ai envie de suivre ce qui se passe, j'ai envie de me tenir au courant et j'ai envie de pouvoir faire avancer les projets, faire avancer la communication autour de la coopération qu'on a mis en place. Donc voilà, ça c'est vraiment des usages qui sont différents et qui sont, pour moi en tout cas, ultra importants à respecter. Et là, pour le moment, vous vous rendez compte que du coup, on n'a pas encore besoin de venir envoyer un mail à quelqu'un. Et on n'a pas non plus, pour le moment, besoin de venir déclencher une visio ou de placer un rituel particulier pour avancer en synchrone. On peut faire avancer énormément de choses en asynchrone, sachant que dans les messageries modernes, comme Slack, on va pouvoir venir mettre des messages texte, mais on va pouvoir aussi venir insérer des vidéos. Donc, par exemple, si vous voulez, plutôt que de écrire, vous pouvez aussi enregistrer une vidéo sur un petit outil comme Loom, par exemple, L-O-O-M. Vous allez enregistrer cette vidéo. Automatiquement, à la fin de la vidéo, où vous partagez tout ce que vous avez besoin de partager comme information, ça génère un URL. Cette URL, vous le collez bien propre dans votre fil de discussion par rapport à projet X rangé dans le canal projet. Les personnes vont rentrer dans ce fil-là, si elles ont été notifiées ou si elles sont curieuses de suivre ce qui se passe. Et à ce moment-là, elles vont découvrir cette vidéo qui est pleine d'informations. Sachant que sur des outils comme Loom, vous pouvez donc regarder cette vidéo et vous allez pouvoir aussi commenter sur la vidéo à des moments particuliers. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir quelque chose de très fin, c'est-à-dire dans projet, j'ai projet X. Dans projet X, j'ai une vidéo qui me parle d'un truc particulier de ce projet. Et dans le contenu qui m'est partagé, il y a un élément sur lequel j'ai envie de rebondir. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre un commentaire sur cet élément à 5 minutes 30 de la vidéo. Et là, la personne qui a fait la vidéo, elle va pouvoir être notifiée. Elle va pouvoir aller voir cette vidéo, voir les commentaires qui ont été mis dessus, avoir son feedback, ses informations. Et elle va pouvoir derrière utiliser ses feedbacks, cette information pour continuer à avancer sur ses tâches et sa répartition de rôle par rapport au projet. Et donc là, on n'a toujours pas commencé à utiliser ni la visio, ni les temps synchrones, et ni les mails, et aussi ni un autre outil de gestion de projet un peu plus poussé. Donc voilà, on peut aller très très loin avec la communication asynchrone, avec les bonnes pratiques de communication asynchrone. Le dernier point que je voulais apporter sur ce petit monologue sur la communication asynchrone, c'est aussi en fait l'importance de se mettre dans la peau des autres personnes qui sont dans la communauté à chaque fois qu'on poste un message. C'est-à-dire, si jamais on est à fond sur un projet, qu'on sait qu'il y a 3-4 personnes qui connaissent le projet et qui le suivent un petit peu, et qu'on commence à aller mettre l'information de ce projet sur le canal général, par exemple, là où il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans les projets, qui sont là de manière plus spontanées et plus légères, qui sont peut-être là plus pour faire partir de la communauté, échanger autour de la veille ou quoi que ce soit, et ben en fait, les gens vont voir dans le canal général de l'information qui a l'air d'être importante pour une certaine partie du groupe, mais qui n'est pas pour, pour eux, parce qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Et donc, ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas du tout informés de ce qui se passe. Alors que si jamais l'information est mise en contexte, donc par exemple, le cas que je viens de préciser là, si ça concerne un projet, bah ça va dans le canal projet avec un S. Et comme ça, et ben, la personne qui ne suit pas les projets, elle ne suit peut-être même pas ce canal-là, et du coup, elle n'a pas de l'information qu'elle n'a pas choisi d'avoir. Et si elle choisit d'aller voir dans le projet, ça veut dire qu'elle choisit de s'intéresser au projet, et là, à ce moment-là, elle va commencer à rentrer dans le détail de ce qui se passe sur le canal projet. Donc vraiment, voilà, utiliser l'écriture, utiliser les messages qu'on met dans la messagerie asynchrone, toujours en se mettant à la place des autres, en disant, tiens, dans tel canal, dans tel espace, est-ce que ce que je partage, c'est adapté, c'est judicieux? Est-ce que dans le canal aléatoire où je peux mettre tout ce que je veux, je vais mettre des choses qui sont sérieuses, ou est-ce que je vais mettre des choses qui sont un peu décalées? Est-ce que ce n'est pas ailleurs que je dois le mettre? Parce que ça concerne quoi? Est-ce qu'on parle d'un projet? Est-ce qu'on parle de la gestion interne du collectif? Est-ce qu'on parle de veille? Est-ce qu'on parle de découverte, d'exploration, de curiosité? Enfin bref, voilà, tous les sujets qui peuvent être de l'ordre de l'information ou du partage de connaissances. Et je me mets à la place de l'autre et je me dis, voilà, je vais écrire pour lui. Je vais formater mon message et mon information pour lui. Et c'est pour ça que c'est super important aussi d'utiliser vraiment les canaux et à chaque fois d'utiliser les fils de discussion, parce que ça force l'écriture dans le sens où on va se dire, ben voilà, je vais préciser le nom du projet. Donc ça, c'est un petit nom d'accroche pour faire référence sur de quoi je vais vous parler à l'intérieur de ce message. Je vais préciser de quoi je vais parler à l'intérieur de ce message, si c'est une question, si c'est une partie du projet ou quoi que ce soit. Et ensuite, je vais dire aux gens, l'information est en fil de discussion, rentrez dedans si ça vous intéresse ou pas. Et comme ça, si on est juste sur le canal projet, par exemple, ou sur le canal général, et que tout le monde respecte ce formatage d'écriture, on va pouvoir se rendre compte, en regardant le fil global de chaque canal, de ce qui est en train de se passer. Donc déjà, ça donne une information un peu macro sur ce qui se passe globalement, donc ce qui est très intéressant pour pas mal de monde. Et ensuite, ça va être au choix de chaque personne de rentrer dans le détail de chaque conversation pour voir plus d'informations, s'ils ont envie d'aller chercher plus d'informations. Voilà. Pareil, quand on va écrire les fils de discussion, quand on va structurer les messages, le faire aussi pour les autres personnes. Donc, se dire, ben, est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je suis en train de leur dire? Est-ce que j'utilise les bons mots? Est-ce qu'ils sont au même niveau d'information que moi ou pas? Est-ce que je dois préciser certaines choses ou pas? Est-ce que je dois leur partager des ressources, des liens, des choses comme ça, pour qu'ils puissent être au bon niveau? Et encore une fois, si vous n'avez pas envie d'écrire ou de beaucoup écrire, dans des messageries comme cela, vous pouvez laisser des messages audio et vous pouvez laisser des messages vidéo avec Loom où on peut commenter dessus. Et du coup, c'est très efficace. Voilà, pour conclure, à mon avis, avec une bonne communication asynchrone, on peut réussir à réduire énormément de frictions de communication qu'il peut y avoir dans un collectif ou dans une communauté online. Et on peut réussir à vraiment dynamiser une communauté online en créant une fluidité d'échange, une fluidité de partage d'informations et de connaissances. C'est ce qu'on ne trouve pas dans la plupart des communautés online, parce que ça reste quand même vraiment très souvent bordélique, pour tout dire. Et ce qui va créer des frictions, parce qu'on a peur d'avoir trop d'informations. Même problème sur les réseaux sociaux, même problème sur Twitter, sur Instagram ou n'importe où. Là, l'avantage d'avoir un fonctionnement social et de communauté sur un outil comme Slack avec de la messagerie asynchrone, c'est qu'on a vraiment le contrôle sur comment est-ce qu'on offre de l'information, comment est-ce qu'on offre de la connaissance aux autres personnes de la communauté. Et pour moi, vraiment, je finirai là-dessus, chaque chose qu'on partage à quelqu'un, que ça soit de l'information, que ça soit de la connaissance, que ça soit de la veille, tout ce que vous voulez, c'est un cadeau qu'on fait à la personne. On n'est pas là pour la charger de quelque chose, on est là pour lui offrir quelque chose. Et donc, du coup, on essaye de le faire comme avec un cadeau, de la plus belle manière qui soit, avec un joli paquet, avec une jolie texture. Et on offre les choses. Et comme ça, on se retrouve à avoir une magnifique communication où à chaque fois, c'est des cadeaux et renvoi de cadeaux et renvoi de cadeaux. Et du coup, on trouve aussi beaucoup de plaisir à coopérer comme ça et on trouve beaucoup de plaisir à évoluer ensemble comme ça. Et c'est ce qui fait la richesse d'un collectif de travail. C'est ce qui fait la richesse aussi d'une communauté. Voilà, si jamais vous voulez en discuter plus en détail, je suis bien entendu ouvert à développer un peu plus loin parce que ça fait partie de mes approches, ça fait partie de mes accompagnements, l'accompagnement à la communication asynchrone, au travail asynchrone. Tout simplement parce que je pense que si on est capable de mieux communiquer en asynchrone, on peut réduire énormément les frictions par rapport aux problèmes d'outils numériques sur lesquels on n'est pas d'accord, sur lesquels les gens n'ont pas envie d'aller. On peut réduire énormément de surcharge cognitive par rapport au trop-plein d'informations ou à la mauvaise structure d'informations. Donc, on peut améliorer la coopération. Si on peut améliorer la coopération et leur donner de l'énergie aux gens, on peut améliorer le fonctionnement des entreprises. Si on peut améliorer le fonctionnement des entreprises, on peut améliorer le fonctionnement de la société. Et ça, donc, un aspect pour moi régénératif sur la société, en commençant par ces petits pas, ces petits messages, ces petits cadeaux qu'on fait en asynchrone à tout le monde. Voilà, je finirai là. Vous retrouvez un petit peu plus d'infos sur le sujet de la communication asynchrone, ultra asynchrone sur une des offres que je pousse, que je partagerai certainement en lien, en commentaire à ce petit monologue. Et voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en discuter plus en détail, mettre ça en contexte de votre propre communauté ou de votre propre écosystème, eh ben, on peut y réfléchir ensemble et adapter une petite analyse de vos usages pour faire ça au mieux. Voilà, j'espère que c'était enrichissant et on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet qui peut me venir comme ça au détour d'un champ. Là, je suis dans un champ à Lucé, en Savoie. Allez, passez une bonne journée.